Bonjour.
Bonjour Tofik, bonjour à tous. L'Iran a frappé cette nuit des bases abritant des soldats américains en Irak. Des raids en forme de représailles, 5 jours après la mort du général Soleimani. Le président américain Donald Trump prendra la parole à la mi-journée tout à l'heure. Nous irons à Washington dans cette édition. Reportage ensuite en Australie où les habitants continuent de lutter contre les flammes. 8 millions d'hectares ont brûlé dans les incendies depuis le mois de septembre. La famille dénonce une bavure policière. Un homme de 42 ans est mort vendredi après avoir été interpellé par la police à Paris. L'autopsie a révélé hier une asphyxie avec une fracture du larynx. La réforme des retraites en France, enfin. Les fonctionnaires auront-ils la possibilité de choisir une retraite progressive comme dans le privé, avec du temps partiel en fin de carrière? Des négociations ont lieu aujourd'hui à ce propos. L'Iran a donc riposté contre les États-Unis. 5 jours après l'élimination du général Qassem Soleimani, le pays a envoyé cette nuit des missiles contre des soldats américains en Irak. Téhéran a très vite revendiqué ces raids qui ont touché 2 bases américaines, Grégory Phillips.
Ces 15 missiles balistiques ont été lancés par les gardiens de la Révolution et ils se sont abattus sur 2 bases en Irak qui effectivement abritent des soldats américains, Erbil dans le nord du pays et Al-Assad dans l'ouest. Clairement, c'est une réponse de Téhéran à l'assassinat ciblé du général Soleimani il y a 5 jours. Les missiles se sont abattus à 1h20 du matin, heure de Bagdad, à l'heure précise de la frappe américaine qui, la semaine passée, a tué ce général. A priori, l'attaque n'a fait aucune victime, ni irakienne, ni américaine. Et 4 heures après les frappes, Donald Trump réagit sur Twitter. « Jusqu'ici, tout va bien », écrit le président des États-Unis, qui implicitement confirme qu'aucun militaire américain n'a été touché. Et Trump promet une déclaration pour ce mercredi matin. La réaction de la Maison-Blanche est donc plutôt mesurée. Et de leur côté, les Iraniens, par la voix de leur ministre des Affaires étrangères, Zarif, disent que l'opération est terminée, qu'ils ne veulent ni guerre ni escalade. Washington et Téhéran, chacun a frappé une fois et semble attendre un peu maintenant avant de prendre le risque de déclencher quelque chose de beaucoup plus grave.
Et à l'instant, la télévision publique iranienne annonce, contrairement à ce que disait Donald Trump cette nuit, que les attaques iraniennes contre des cibles américaines ont fait cette nuit 80 morts. Information évidemment à vérifier. C'était Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Nous l'avons appris il y a à peine une heure, un Boeing 737 appartenant à la compagnie ukrainienne International Airlines s'est écrasé ce matin, peu après avoir décollé de Téhéran en Iran. Au moins 170 passagers étaient à bord, selon l'agence de presse iranienne ISNA. Tous seraient décédés. Les feux continuent de ravager l'Australie où 8 millions d'hectares sont partis en fumée depuis le mois de septembre. Notre correspondante a rencontré pour France Culture un homme qui a combattu les flammes pendant 12 heures pour défendre sa maison. C'est un reportage tourné dans le village de Corbago sur la côte sud-est de l'Australie. Il est saigné et Gaël Joly.
On n'a jamais vécu une telle catastrophe.
Avec sa carrure de colosse et son air de cow-boy, Roland se croyait peut-être invincible, mais son face-à-face avec les flammes l'a ébranlé.
Je me suis battu 12 heures à combattre le feu avec un tuyau d'arrosage. J'étais porté par l'adrénaline, je ne pensais qu'à ça, survivre. C'était horrible. Personne ne devrait voir ça. Pour moi, c'était comme être plongé dans un terrain de guerre.
Comme tous les habitants de Cobargo, Roland avait pourtant ordre d'évacuer son restaurant situé en plein milieu du village, mais il a désobéi.
Vous avez décidé de rester.
Parce que je devais me battre pour protéger tout ça, et mes 2 voisins aussi. L'un habite Sydney, l'autre Canberra, ils ne sont pas là. Et si je ne m'étais pas battu, le feu serait venu.
Roland passe désormais ses journées dans la cuisine de son restaurant.
Je suis très occupé là, vous voyez, je cuisine pour des gens qui viennent de perdre leur maison.
Il attend secrètement le coup de fil de ses voisins, qui visiblement n'ont pas encore pris le temps de décrocher leur téléphone.
C'était Gaël Joly avec Arthur Gerbeau en Australie. Il s'agira de sa première apparition publique depuis sa fuite vers le Liban. Carlos Ghosn donnera en début d'après-midi tout à l'heure une conférence de presse depuis Beyrouth. L'ancien dirigeant de Renault-Nissan doit s'expliquer sur son départ du Japon où il était assigné à résidence avant un procès pour malversation financière. Son équipe de communication a méticuleusement organisé le processus d'accréditation des journalistes qui seront autorisés à participer à cette prise de parole. Elle est évidemment très attendue de Tokyo à Beyrouth en passant par Paris. Cédric Chouvia a été victime d'une asphyxie avec fracture du larynx. Ce sont les premiers éléments de l'autopsie communiqués hier par le parquet de Paris. Cédric Chouvia est un homme de 42 ans, mort vendredi dernier après une interpellation par des policiers à Paris. Voici les faits avec Antoine Marette.
Cédric Chouvia était livreur, il travaillait en scooter. Vendredi dernier, dans la matinée, il est l'objet d'un contrôle routier près de la Tour Eiffel. Très vite, le ton monte. Cédric Chouvia décide de filmer son interpellation avec son smartphone, tout comme d'autres personnes présentes sur place. Sur les images, on le voit ensuite à terre, sur le ventre. Il se débat sous le poids de trois policiers. Cédric Chouvia est ensuite transporté en urgence à l'hôpital Pompidou, où il décède deux jours plus tard. De quoi est-il mort ? Les premiers éléments de l'autopsie révélés par le parquet de Paris évoquent une asphyxie avec fracture du larynx. Pour l'avocat de la famille, maître Ariel Imi, ce sont probablement les gestes effectués par les policiers qui sont à l'origine de ce décès.
On peut dire aujourd'hui que si Cédric Chouvia est mort, c'est parce que les policiers ont pratiqué probablement une clé d'étranglement, mais également un plaquage ventral au sol à trois pendant un certain temps. Ce que l'on savait de la préfecture s'est avéré faux, à savoir qu'il y aurait eu une interpellation liée à un caractère agressif, violent, qu'il aurait fait trébucher des fonctionnaires de police et qu'il aurait eu un malaise cardiaque spontané non lié à l'intervention des fonctionnaires de police.
La famille de Cédric Chouvia a déposé une plainte pour violence volontaire commise par personne dépositaire de l'autorité publique en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Édouard Philippe fait un pas vers la CFDT et propose de nouvelles discussions vendredi. Le Premier ministre a accepté hier l'idée d'une conférence sur le financement du futur système de retraite. C'est ce que demandait la CFDT. La question de l'âge pivot, en revanche, n'est pas retirée du texte pour le moment. Cela reste donc un préalable. C'est ce qu'ont souligné les syndicats réformistes. Un appel à la mobilisation nationale est toujours lancé pour demain jeudi par l'intersyndicale CGT, FO, Solidaires, CFE-CGC et FSU. Et d'ici là, les négociations se poursuivent branche par branche, ministère par ministère. Ce mercredi, les syndicats de fonctionnaires sont invités par leur secrétaire d'État, Olivier Dussopt, et celui chargé des retraites, Laurent Pietraszewski. Force ouvrière et solidaire ont décidé de boycotter ce rendez-vous qui doit aborder les questions de pénibilité et de fin de carrière pour les fonctionnaires. Il sera notamment question de la retraite progressive. Catherine Pétillon.
Le principe, c'est de continuer à travailler à temps partiel tout en bénéficiant d'une partie de sa pension et donc de continuer à cotiser. Quand on s'arrête complètement de travailler, la retraite est recalculée. Dans le privé, il est possible d'opter pour la retraite progressive à partir de 60 ans, mais cela ne concerne qu'environ 18 000 salariés, entre autres parce qu'il faut l'accord de l'employeur et parce que le dispositif reste peu connu. Si la FSU reste très opposée à la réforme des retraites dans son ensemble, elle reconnaît qu'ouvrir ce dispositif aux fonctionnaires pourrait être intéressant, à condition que cela soit vraiment un nouveau droit, avertit Benoît Teste, son secrétaire général.
Jamais le gouvernement ne précise si cette possibilité serait ouverte avant 62 ans. Et s'il s'agit de l'ouvrir seulement après 62 ans, ça s'apparente plutôt à un dispositif de cumul emploi-retraite, c'est-à-dire continuer à travailler, au besoin à temps partiel parce qu'on est trop usé par le travail, mais qu'on n'aura pas accumulé suffisamment de points pour bénéficier d'une pension décente.
Conditions d'accès, âge limite, valeur du point acquis dans la période sont autant d'inconnus. Sans oublier les questions connexes, mais tout aussi cruciales, souligne l'économiste Annie Jolivet, chercheuse au CNAM.
Est-ce qu'on a la possibilité de cotiser sur la base du temps plein, donc le salarié de son côté et puis l'employeur par ailleurs? Est-ce qu'on prend en compte la base du temps plein aussi pour des questions de prévoyance, pour les primes de licenciement?
Avec cette difficulté particulière, souligne l'économiste, si ces questions font l'objet d'accords d'entreprise, la fonction publique, elle, n'a pas le même type de négociation sociale. En tout cas, les syndicats de fonctionnaires attendent des explications sur la manière dont le gouvernement envisage ce dispositif. À cette heure, personne n'en a.
C'était Catherine Pétillon. Gallimard arrête la commercialisation du journal de Gabriel Matzneff. L'écrivain fait, je vous le rappelle, l'objet d'une enquête pour viol sur mineur. Il est mis en cause dans le livre d'une éditrice racontant sa relation sous emprise avec lui quand elle avait alors 14 ans. Seul le sud de la France sera au sec aujourd'hui, sous une ligne allant de Bordeaux à Lyon. Ailleurs, au-dessus donc de cette ligne, les averses vont durer toute la journée, en particulier de la Bretagne jusqu'au Pays de la Loire et jusqu'aux frontières belges et allemandes. Comptez 3 degrés ce matin à Strasbourg, 4 degrés à Lyon, 9 à Bordeaux, 11 degrés à Rennes, Paris, Lille et à Perpignan.